Je m'appelle Pascal Clark. On se connaît et on ne se connaît pas. J'ai parlé à la radio pendant plus de 30 ans. Si nous avons partagé quelques moments, vous le savez mieux que moi. Quand il arrive que nous nous croisions et que vous me remémoriez un souvenir commun, je me demande si vous ne me confondez pas avec une autre, tant les vagues me paraissent avoir fait place nette sur la plage. Les rouges ne s'allument plus dans mon champ de vision. Mon présent est encombré de trop de replays. Tous les futurs s'accordent pour s'écrire sans moi. Je navigue entre dates de péremption et obsolescence programmée. Peut-être ai-je fait mon temps et qu'il n'y aura pas de rappel. Depuis quelque temps, je développe une fâcheuse manie, perdre ce que j'ai de plus précieux. Rien ne sert de ne pas aimer perdre au jeu. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma voix, j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu le direct, j'ai perdu des amis qui ne sont pas morts, j'ai perdu la carte de presse, j'ai perdu la confiance.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
La voix, évidemment vous aurez rectifié, n'est pas celle de Pascal Clark, mais bien celle de notre ami Eric Oswald. Il m'était impossible en effet de faire dire à une autre « je suis Pascal Clark ». À un homme, en revanche, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me plaît bien. Tout comme il me plaît bien de recevoir, dans sa maison France Inter, celle qui y a laissé sa marque au fil des années, de revues de presse en matinale, de tam-tam, etc., à comme on nous parle, et jusqu'aux soirées live. Qu'elle nous crispe ou qu'elle nous enchante, Pascal Clark, nul ne peut le nier, c'est sacrément bien faire de la radio. Et ça, mesdames, messieurs, ça n'est pas si fréquent. Du moins, lorsque l'on place la barre à un certain niveau d'exigence. Et c'est avec un livre, sacrément bien tenu lui aussi, qu'elle nous revient aujourd'hui. Il s'appelle Mute, comme le petit bouton qui sert à couper le son sur les télécommandes. Et il vient de paraître chez Flammarion. Mute raconte une double perte, celle de sa voix de radio après son départ d'Inter en juin 2016 et celle de sa mère, Frania, qui elle aussi a cessé de parler avant de s'éteindre en novembre 2018. Pas facile d'écrire sur des sujets pareils sans tomber dans la récrimination ou la sensiblerie, mais Pascal Clark évite élégamment les écueils et épate son lecteur avec une sincérité cache. Et surtout, à chaque ligne, on entend sa voix, celle que l'on n'a pas oubliée, crâne, moqueuse, courageuse, sa voix qui manque ici. Bonsoir Pascal Clark.
Bonsoir Kathleen, vous attaquez fort.
Oh, ça fait quelque chose, je suis déjà en larmes. Oui, moi j'ai un peu la voix qui tremble, je veux dire. D'abord, c'est compliqué de recevoir une professionnelle, donc voilà, pardonnez-moi si je ne suis pas au top. Mais
vous plaisantez.
Allez, on va commencer tranquille. Mute, c'est donc ce qui permet de couper la voix, ce qui coupe la voix, ce qui a été votre cas à partir de 2016. Et double perte, la vôtre, celle de votre mère. Pas simple de s'en sortir. Comment allez-vous, Pascal Clark ?
Oh ben ça va bien. Je pourrais m'appeler Florence Forestier et devoir présenter les Césars. Voyez, il y a pire.
Oh non, on vous souhaite non, pas de non, mal.
Non, ça va mieux. Mais c'est vrai que bon, voilà, il y a des moments dans la vie où j'ai toujours été sensible à une sorte de synchronicité des événements. Et ça, je pense que chacun peut le constater. Parfois, moi, je suis pas croyante, mais il y a quelque part un scénariste qui s'amuse. Et là, effectivement, quand j'ai arrêté de faire de la radio, ce sont des choses qui arrivent. Hein, c'est pas non plus un drame en soi. Voilà.
Nous sommes des intermittents du spectacle, comme on nous le répète depuis 30 ans.
Comme on nous le répète, comme on nous l'impose aussi, au passage. Oui. Et donc, voilà, un jour ça s'arrête et il n'y a pas de drame. Mais effectivement, quand j'ai arrêté de parler à la radio, ma mère a arrêté de parler tout court. Donc, je ne saurais jamais si c'était son corps qui réagissait à la situation. Mais cette coïncidence des événements a été troublante, c'est-à-dire que nous avons chuté ensemble. Elle a commencé à tomber dans la rue, puisqu'on a découvert qu'elle avait une maladie dégénérative, et elle a perdu sa voix. Et donc il y a eu cette concordance d'événements, et notre façon d'être ensemble, finalement, dans un monde très bruyant quand même, dans un monde où, avec beaucoup de paroles, où les gens ne s'écoutent pas, mais enfin, le son est fort, pour le coup, et puis dans un monde axé sur la mobilité. C'est vrai, c'est le mot où tout le monde veut être mobile, voilà, dans les villes ou ailleurs. Et nous, toutes les deux, nous étions immobiles, elle malheureusement au sens propre, moi au sens plus symbolique, et nous étions muettes, pareil. Donc c'est ça que j'ai voulu raconter, comment cette mère avec qui nous avions une relation...
Fusionnel, il faut le dire.
Alors, je sais pas si c'est fusionnel parce que il n'y a pas eu d'étouffement. Donc, c'est la petite limite que je mets au terme fusionnel. Mais moi, je me rends compte maintenant à travers les nombreux témoignages que je reçois. Bon, mère-fille, c'est toujours un dossier. Moi, je pensais que c'était normal de s'aimer autant, d'être là l'une pour l'autre, de partager beaucoup de choses et d'être inquiète en permanence pour l'autre aussi. C'est ça l'amour, c'est l'inquiétude réciproque. Je pensais que c'était pareil pour tout le monde et je me rends compte que non. C'est-à-dire que je reçois des témoignages de filles qui se disent, bah, finalement, ma mère est distante, ou alors ma mère, pire, ma mère est toxique. Il y a beaucoup aussi de mères toxiques et on en a des exemples récents. Quand, par exemple, Vanessa Springora sort Le Consentement, évidemment qu'on s'interroge sur sa mère qui la place dans les bras de Gabriel Masnev, vous voyez. Donc, la relation fille-mère, je trouve que ça touche toutes les filles et toutes les mères d'une façon ou d'une autre. Donc...
En tout cas, vous, Pascal Clark, dans ce livre, c'est d'abord un hommage à votre mère. Alors, ne parlons pas de fusion, parlons en tout cas de complicité très proche, de sincérité dans vos rapports. Elle était votre première auditrice, pas forcément toujours très complaisante.
Ah non, je peux vous jurer que non.
Mais ce compagnonnage et cette écoute, cette oreille qui vous entendait depuis le matin jusqu'au soir, au gré de vos passages sur les radios et sur les horaires différents, c'était quelque chose qui vous tenait debout, qui vous permettait d'avancer, de vous remettre en question, sachant qu'il y avait de l'autre côté du poste une oreille critique.
Oui, attentive. Hein. Je pense que ça, elle a été ma plus fidèle auditrice ou que j'ai pu passer. Et effectivement, il y a eu un nombre de fréquences assez intense. Elle suivait, elle était là. Et elle critiquait beaucoup parce que c'était pas, vous voyez, de l'amour absolu, mais quand même à la base, il y avait cet amour. C'est pareil, je le réalise maintenant, qui m'a donné confiance. Qu'on le veuille ou non, l'amour, ça donne confiance. Et qui m'a permis notamment d'aborder ce métier de journaliste, que vous le savez, Kathleen, hein, qui était loin d'être simple pour une femme. Déjà, moi, quand je disais que je voulais être journaliste, ah ouais, mais t'es une femme, tu crois que tu vas y arriver? Et puis j'ai traversé des rédactions extrêmement misogynes. Il n'y a pas de raison que...
C'est presque un pléonasme de l'époque dont on parle. Hein.
Oui,
au
oui,
début, c'était que ça.
Non, c'était que ça, mais il faut le dire.
On faisait les cafés. Et...
Oui, les cafés, ou alors dans les rédactions, les femmes étaient au service santé, culture, vous voyez.
On s'occupait des bébés, déjà.
Voilà, et bon, tout ça, on l'a vécu, mais j'avais cette confiance. Donc, oui, elle a été là tout le temps. C'est-à-dire, ouais, c'était une nappe d'amour permanente.
Alors, elle a été là tout le temps, mais vous aussi, Pascal, on va écouter une première lecture de votre livre. S'il vous plaît, ne pleurez pas.
Je vais essayer.
C'est une page assez forte.
Le samedi restait un jour spécial, avec ou sans banane flambée. Il t'était réservé, je sortais le grand jeu. Luz m'attendait pour partir, nous restions seuls toutes les deux. Je buvais un café, puis te demandais si tu étais prête. Tu clignais des yeux, une étincelle à l'intérieur. Ma technique valait ce qu'elle valait. Je te décalais légèrement sur le côté gauche du lit, installais ta grille de protection côté droit, faisais le tour de ton vaisseau, baissais la grille côté gauche, grimpais à bord, me dressais au-dessus de toi pour t'enjamber. Là, il arrivait que l'état de ma souplesse te donne envie de rire. Du coup, je riais aussi. Ce n'était vraiment pas le moment, la manœuvre était délicate. Me laisser retomber côté droit, sans te heurter, il n'y avait pas beaucoup de place pour loger ma carcasse. Une fois calée, la grille droite me retenait près de toi. Une heure de sieste, allongée côte à côte, pareillement horizontale, ma main gauche dans ta main droite. Ainsi rassurée, tu t'endormais rapidement. Je n'osais bouger, sentais quelques fourmis s'installer devant le magazine 13h15 le samedi sur France 2. C'était le prix de notre inquiétude réciproque au point mort. Les cycles de l'existence nous transformaient-ils forcément, en fin de compte, en parents de nos parents? Il était tellement tentant d'y croire. Sur le papier, notre situation semblait illustrer la théorie à merveille. Nous avions couru les médecins ensemble durant mon adolescence et au-delà pour tenter de traiter cette maladie de peau qui me rongeait et me faisait me gratter la nuit jusqu'au sang malgré les gants chirurgicaux. En vain. Les dermatologues ne savaient rien, sinon brandir la cause psychologique. Comme une redite, un demi-siècle plus tard, nous avions couru les spécialistes ensemble pour tenter de rétablir ton équilibre quand tu avais commencé à tomber. En vain. Tu n'avais plus cessé de chuter. Chacune son tour, la mère s'occupant de sa fille, puis la fille s'occupant de sa mère, dans une même dramaturgie, inversant les rôles au gramme près. Mère de sa propre mère, fille de sa propre fille, comme une évolution naturelle des générations. Les années qui passaient semblaient dupliquer la situation au papier carbone.
Pascal Clark, il y a bien sûr dans votre livre le portrait de cette Frania, portrait d'une jeune fille qui a réchappé au massacre de la guerre, qui a échappé à la rafle du Veldiv, cette femme forte, cette femme libre que vous nous décrivez, mais il y a aussi, et journaliste vous êtes, on ne se refait pas, la description aussi de cette société qui n'est pas très accueillante, d'abord aux malades en fauteuil roulant, dans un Paris qui n'est pas fait pour ça, dans un métro qui n'est pas fait pour ça, et puis aussi un hôpital débordé en dépit des médecins et des infirmières qui font ce qu'ils peuvent dans un désastre financier. Vous nous racontez ça aussi, c'est un parcours du combattant cette dernière année.
Oui, c'est ça qu'on a traversé ensemble, c'est-à-dire que bon, ma mère était sur la fin de vie, vous voyez, combien de temps ça dure une fin de vie, vous n'en savez rien en réalité. Et vous constatez que chaque aptitude dont vous n'aviez pas noté qu'elle était toujours là, un jour disparaît. Et donc, voilà, on s'est retrouvés aux urgences un jour, difficultés respiratoires. Et là, bon, c'était à la Riboisière, à Paris, donc très gros service d'urgence pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, on s'est retrouvés, oui, dans une situation que ceux qui fréquentent les hôpitaux connaissent, malheureusement. Ce sont des gens admirables, je parle de tout le personnel hospitalier, mais sur un champ de ruines. Et donc, voilà, ça s'est transformé en une obsession, c'est que ma mère, qui n'était pas encore sauvée, libère son lit, on en est là en France actuellement. Et oui, ça me met en colère, comme me met en colère la situation des personnes handicapées dans les villes. Prenons Paris, 302 stations de métro, vous savez combien sont accessibles ?
9.
9, c'est-à-dire ça fait à peine du 5%, et encore quand les ascenseurs ne sont pas en panne, à titre de comparaison, Londres c'est 20%, et il y a des villes américaines qui sont à 100%, comme Washington et Los Angeles. Donc là, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, on le sait. Les personnes âgées qui disparaissent complètement du paysage, c'est-à-dire personne ne veut écouter les vieux. Je dis les vieux à raison pour pas employer de périphrase. C'est pas la peine de dire aux personnes âgées, prenons les vieux. En même temps, on est toujours le vieux de quelqu'un. Hein. On vit de plus en plus vieux et il y a toute cette période de vie où vous n'intéressez plus personne. Mais je parle pas simplement des pouvoirs publics qui pourraient changer les choses. Je parle aussi dans le paysage. En plus, une vieille dame qui ne parle plus, vous vous rendez compte? Donc oui, on a traversé cette solitude ensemble, parce que moi aussi je me sentais seule à ce moment-là. Mais il y a beaucoup à dire et il y aurait beaucoup à changer. Enfin, je trouve ça vraiment honteux qu'on laisse les vieux comme ça, avec leur trésor de mémoire, de transmission. Je ne pense pas que ce soit comme ça dans toutes les sociétés. Je crois qu'au Japon, par exemple, on fait très attention aux vieilles personnes parce qu'on connaît justement les trésors qu'elles véhiculent. Et moi, dans ma famille, puisque la question s'est posée, on met pas les personnes âgées dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD. Je ne dis pas que c'est facile à faire parce qu'évidemment, rester chez soi, ça coûte très très cher. Ma mère avait deux femmes de vie, vous voyez, rien que cette expression, des femmes de vie. Absolument admirables. Soit dit au passage, ce sont des étrangères, hein. C'est-à-dire que je connais un nombre impressionnant de femmes étrangères qui font ce travail-là. Parfois, non, c'était pas le cas, mais parfois n'ont pas leurs papiers et sont dans un dévouement total. Donc ça, c'est pareil, c'est tout un pan important de la vie, vous vous rendez compte, dont personne ne parle.
Thank you. Hawkins wrenched down. And then Georgie would make the fire light as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il est 9h08 sur Inter. Voici Pascal Clark, c'est Tam Tam, etc.
Écoutez.
Tam 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 tam. Le tam tam.
Tam. Le tam tam tam.
Tam tam.
Tam tam. Tam tam.
Tam tam, c'est toi, Twitter.
Écoutez bien cette voix. Bonjour Pascal.
Bonjour Nicolas.
Et bienvenue, bon retour à la maison de la radio, Pascal.
Merci.
Clark.
Merci. Savez-vous Nicolas, d'où vient ce titre d'émission?
Non.
Non, pas la moindre idée.
Aucune.
On va demander. Alors bonjour Alain Souchon.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. 93, foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. Les ravages du téléchargement, je vous ai piqué la phrase, désolé, vous m'en voulez?
Non, je suis fier.
C'est vrai?
Écoutez, vous faites toujours des émissions qui sont un petit peu des émissions de résistance, où on dit la vérité. Alors, je suis content d'être associé à une aventure comme celle-là.
Vingt et une heure quatre, et êtes-vous live?
Live and direct. Live and direct.
Alive, it's alive.
Bonsoir à tous, ça commence à faire, non, juin après juin, toutes ces dernières, l'extraordinaire éphémère de la radio. Juin 14, fin de comme on nous parle à 9h, des pleurs. Juin 15, fin de live à 21h, des pleurs. Juin 16, le 18, 22h, remise des compteurs à zéro, plus de pleurs, une dernière en différé. Là, c'est l'après-midi de jeudi, et tel que vous ne me voyez pas, seule Pomme dans le studio. Et tant mieux, pas de caméra. Ce soir, la dernière de Making Off. À part ça, comment va votre cœur? Enfin, merci à vous. Merci pour ce lien que je ressens depuis toutes ces années, en direct ou en différé. Je ne crois pas que ce soit une affaire de fréquence. Il est même possible qu'on se retrouve pour mettre le boxon. Merci à tous, à bientôt. Et surtout, chose essentielle, portez-vous bien.
Making of, Pascal Clark sur France Inter.
Petit retour en abrégé, bien sûr, on ne résume pas comme ça 30 ans de carrière à la radio, Pascal Clark. La radio, comme vous a dit quelqu'un d'autre, c'était votre vie, ça le reste.
Oui, mais ça reste ma vie.
C'est dur, hein, c'est surtout dur de quitter le direct, j'en sais quelque chose, mais il y a une vie après quand même.
Oui, bien sûr qu'il y a une vie. D'ailleurs, le manque ne s'est pas inscrit immédiatement dans mon corps. Parce que j'avais un autre projet qui était celui de Boxon, donc un studio de podcast. Mais c'est venu un peu, petit à petit, un peu sournoisement. Vous voyez, le manque du direct, en fait. Le manque de, voilà, cette lumière rouge là qui est en face de nous, qui signifie direct. Et c'est un espace très particulier, le direct. Je ne sais pas comment vous pourriez le définir, vous, Kathleen.
C'est quelque chose qui oblige. C'est-à-dire que on enfile comme une armure, un corset, et on essaye de se tenir bien. Enfin, c'était comme ça qu'on était élevé autrefois à la radio.
Oui, et puis c'est une espèce de territoire à la fois mystérieux et familier. Pour moi, je le vois, comme un bout de territoire. Pour moi, c'est absolument géographique. Et c'est vrai que, au bout d'un moment, ça finit par manquer ce territoire-là. Mais bon, il y a plus grave dans la vie.
Alors, vous en parlez très bien dans votre livre. Évidemment, on parle bien des choses qu'on aime. Mais alors, on l'a entendu dans le dernier petit bout de générique qui terminait Making Off en juin 2018. Il y a eu Boxon après. C'est un beau projet et en plus, les podcasts explosent à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ce Boxon qui était plein de reportages formidables n'a pas pu vivre encore?
Je pense un réseau d'explications. D'abord, nous étions peut-être un peu tôt. Ensuite, nous avons commis des erreurs, mais des erreurs de marketing, vous voyez. Et ne pas être doué en marketing, ça ne m'étonne pas. ça m'intéresse pas trop.
Bah, c'est un autre métier.
C'est un autre métier, mais c'est absolument nécessaire. Et puis, je pense que la vérité, c'est qu'il n'y a pas encore de modèle économique pour le podcast. C'est-à-dire, tout le monde se gargarise du podcast, tous les médias veulent leur podcast. Vous voyez, c'est à la mode, c'est en vogue. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de modèle économique. Et que les studios, dont certains sont très doués, d'ailleurs, ceux qui subsistent, frayent avec les marques. Voilà, ils s'en sortent en faisant des podcasts pour les marques qui, pour le coup, payent le prix, un prix un peu élevé, et ça permet de faire vivre les studios. Donc voilà où on en est. Et c'est vrai que nous étions sur le terrain. Vous aviez eu la gentillesse de nous inviter avec Candice Marshall quand nous avons lancé Boxon. Nous étions sur le terrain parce que c'est ça qui me manque, moi, à la radio, c'est le son. Je pense qu'il n'y a plus assez de son.
Bien sûr.
Et que c'est quand même la matière première jusqu'à nouvel ordre de la radio. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, bon, je veux bien être en studio, faire venir des gens en studio, faire de la promotion, ce que j'ai fait pendant longtemps, hein, mais j'ai essayé toujours de mettre du son, et dès que je pouvais sortir, voilà. Et donc, ça coûte cher, le reportage, en fait, parce que y a beaucoup de travail du son, mais c'est ça qu'on aime dans ce métier. Enfin, moi, c'est ça que j'aime, c'est travailler le son, et fait, on connaît le pouvoir d'évocation du son, la magie, l'imaginaire qu'il véhicule, et je vous dis la vérité, pour moi, se priver de son, pour une radio, c'est se tirer une balle dans le pied, vraiment. Et c'est comme filmer.
Surtout quand on filme, oui, ouais. C'est sûr.
Mais je dois être d'un autre âge. Hein.
Bah, on est des dinosaures, toutes les deux.
Oui, mais c'est pas grave.
Oui, c'est pas grave.
Et puis ça reviendra, vous savez.
Oui, oui. Alors, dans votre livre, vous parlez beaucoup de radio, de vos débuts, bien sûr, qui remontent à un temps immémorial maintenant.
Bon, ça va, là.
Oui. Non, je suis plus vieille que vous, donc je peux le dire.
Ça va.
Mais il y a surtout ce retour sur ces années France Inter, parce qu'il faut bien dire qu'ici, on a une passion pour notre radio. Hein. On l'aime, on l'apprend même un peu trop pour notre chose, parce qu'en fait, on n'y est que de passage. On le sent de temps en temps, souvent. Et il y a, vous revenez sur des choses qui, vous le savez, Pascal Clark, ont parfois hérissé le poil des auditeurs ou même de vos camarades, mais qui font partie de votre personnalité. Et je dois dire que quand on les réécoute, finalement, est-ce le passage du temps, on trouve ça assez sympa.
Passage d'antenne entre Patrick Cohen et Pascal Clark.
Bonjour Pascal Clark.
Bonjour Patrick Cohen.
Qu'est-ce que se passe-t-il? Un contre-coup de la journée de la gentillesse, c'était hier.
Voilà, non, vous m'intimidez. Ah. Je peux vous le dire aujourd'hui.
Ah bon? Une raison particulière?
Bah, tout, vous, votre talent,
oui,
votre. Voilà.
C'est parti.
Comment vous brillez, comment vous dégagez, votre charisme naturel, tout ça finit par m'intimider.
Quand va arriver la vacherie? Rapidement, à votre avis?
Quelle vacherie? Il n'y a pas de vacherie aujourd'hui.
Je vous le dis. Voilà, J plus 1.
Quoi, c'est pas crédible?
J'en ai de la gentillesse à J plus 1, Pascal Clark.
C'est pas crédible que vous m'intimidiez?
Juste pour nos auditeurs, je précise que nos deux amis sont à moitié nus dans le studio. Il faut expliquer les choses.
Mais vous aussi, puisqu'on fait ça à trois le jeudi.
C'est une triplette. Et les autres, ils regardent dans le studio, ils sont là.
Maintenant.
Et vous vous écoutez.
Voilà, c'est le passage du jeudi avec Stéphane de Grotte.
C'est pour ça que c'est pas filmé.
Bonne émission, Pascal.
Merci.
Come on.
Piocher avec malice par Claire Tessier dans la masse de ses passages d'antenne d'anthologie. Ben oui, on la remercie. Voilà, Pascal Clark, vous revenez sur cette... Évidemment, c'était votre personnalité, c'était votre manière de déstabiliser gentiment aussi vos camarades.
Non, mais je comprends que c'est pu énerver. Hein. Franchement, moi-même, je m'énervais un matin sur deux, mais... Oui, c'est venu comme ça, c'était pas du tout prémédité. Et puis, comme je le raconte dans le livre, on ne préparait rien. C'est rare de rien préparer. On sait bien que l'improvisation, par exemple, c'est beaucoup de travail. On ne peut improviser que si on a suffisamment
travaillé. Vous n'aviez pas de conducteur comme mes feuilles là, griffonnées.
Non, pour ce passage d'antenne.
Ah oui. Non, aussi pour votre émission, évidemment.
Oui, oui, bien sûr. Mais pour ce passage d'antenne, on laissait agir le moment. C'était ça qui me plaisait, moi. Mais j'avoue que, oui, on est allé un peu loin. Et puis, Patrick Cohen a subi quand même. Je l'ai un peu martyrisé, mais... Et c'est incroyable parce que les gens savaient pas quoi en penser. Premier, deuxième degré, ou alors je le déteste, elle le déteste, elle veut prendre sa place, ou alors ils sont ensemble si ça se trouve. Enfin, c'était assez drôle. Mais j'avoue que, ouais, ça a pu énerver. Mais c'est pas grave.
Quand on se souvient de toutes ces émissions qui se sont succédées, ne parlons que de France Inter, c'est vrai que vous étiez très présente. Il y a parfois des producteurs d'émissions qui sont là, qui passent les plats, qui font un service soft et minimum. Vous, vous étiez là et vous aviez votre empreinte absolument à chaque moment. Quand vous regardez en arrière, est-ce que c'est une façon d'occuper l'antenne qui vous semble bien,
C'est difficile
importante.
C'est difficile d'avoir un regard sur soi-même à tout moment. Il me semble quand même que j'ai voulu honorer le direct. C'est-à-dire, le direct, c'est un moment où tout peut arriver. Alors, tout n'arrive pas à tout moment. Mais j'aimais bien qu'on puisse se dire ça. Les gens qui écoutent se disent, ben non, on n'est pas dans la routine, là. Vous dites passer les plats, voyez, la façon dont vous le dites, c'est quand même pas... c'est un peu péjoratif. Alors, j'avoue que j'ai dû en rajouter plus qu'il ne fallait. Mais après, c'est une question de dosage. Je voulais qu'il se passe quelque chose. Donc, parfois, je le provoquais, parfois, ça n'arrivait pas. Et je pense que oui, c'est allé un peu trop loin, mais au moins, on peut pas me reprocher de ne pas avoir tenté des choses.
Alors, il y a une chose aussi que vous racontez dans ce livre Mute, paru chez Flammarion Pascal Clark, c'est le temps d'après, et tout d'un coup, on cesse un peu d'exister dans le regard des autres, les regards se détournent, parfois dans la rue, vous croisez des gens qui vous connaissaient très bien avant et qui vous sautaient au cou facilement, et tout d'un coup, on a cessé d'occuper un créneau dans la première radio de France.
Et elle n'était pas première à l'époque.
Oui.
Non, c'est quand je suis partie qu'elle est devenue première.
Ah ben voilà.
Enfin, avec Patrick Cohen, quand nous sommes partis tous les deux. Ouais.
Bon, et ça, c'est quelque chose qui, voilà, qu'il faut avaler et en tirer une philosophie de l'existence, quand même.
Oui, mais on le sait en plus. Enfin, c'est connu comme sentiment. Mais c'est vrai que quand vous le vivez, c'est difficile. Et puis surtout, c'est pas au poids, ces choses-là. Il y a quand même des gens qui sont là et je me reprochais de pas me concentrer sur les gens qui étaient là parce que et de penser à ceux qui manquaient, mais ça c'est dans la nature humaine, mais c'est vrai que quand vous disparaissez complètement. Alors il y a des choses qui sont absolument de l'ordre du normal, si ça veut dire quelque chose, et puis il y a des choses un peu plus qui sont un peu plus blessantes. Ça dépend, c'est au cas par cas, mais en tout cas vous ne pouvez pas ne pas remarquer que vous ne comptez plus du tout. Et parfois, par orgueil probablement, mais l'orgueil fait aussi partie de l'affaire, vous disparaissez quand votre téléphone sonne, c'est quelqu'un qui vous démarche pour prendre un abonnement à Mediapart ou pour vous refroguer le compteur Linky, voilà. Donc, faut s'y faire. Mais du coup, les gens qui sont restés, même s'ils ne sont pas très nombreux, eh bien, vous dégustez. Enfin, déguster au sens premier du terme.
Oui. C'est-à-dire vous y prenez plaisir.
Ah oui, oui, là, donc tout est relatif dans la vie.
Et oui, une année de perte, de double perte, et une année pour réapprendre à vivre.
Ça va mieux. Je n'écoute plus la radio à un trou béant à la place du cœur. Tout juste un coup de poinçon vient-il le titiller de temps en temps. Longtemps familière des cuisines, lorsque je m'attable au restaurant, j'entends qu'on me serve des produits frais. J'attends qu'on m'étonne à force de plats originaux dont je salue intérieurement le savoir-faire. Qu'on me nourrisse, somme toute, honnêtement. J'ai la dent dure. Certaines expressions réchauffées continuent d'écorcher les tympans de la folle de radio que je suis resté. Depuis l'autre côté, je peste parfois devant la façon qu'on a de me parler. Ne pas me dire « les amis ». Je ne suis pas ton ami. Les mots ont un sens même à l'époque de Facebook. Ne pas me remercier d'écouter. Si je suis là, c'est que je l'ai choisi. Ne pas évoquer devant moi les auditeurs. J'aimerais qu'on s'adresse à moi personnellement, sans quoi je risque de partir écouter ailleurs. Je peux tout me permettre, le client est roi. Les mauvaises liaisons me font l'effet d'un crissement d'ongles sur un tableau. Je renifle l'insincérité à 100 bornes à la ronde. Mais mes voix préférées continuent de m'enchanter jusque tard dans la nuit. Le petit poste Sony aux 15 présélections me suit dans l'appartement. Je ne rumine plus en me rappelant avoir été tellement longtemps caché dedans. Je me contente de penser « dommage ».
2, 1, 2, je parle toujours aussi fort. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Bon, il y a un bébé qui pleure, mais c'est la vie. Hein.
C'est chouette.
Bonjour Christophe Messec.
Bonjour.
Ça va mieux. J'ai repoussé plusieurs propositions commerciales m'offrant un joli chèque pour poser ma voix au service d'une marque. Même en vivant sur mes réserves, je tiens encore. Le journalisme est devenu une activité décriée, insultée, vilipendée, méprisée, moquée, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il restera mon métier aussi longtemps que j'aurai les yeux verts et que je serai né à Paris.
Pascal Clark, vous êtes devenue une auditrice de ces radios publiques, j'imagine que ce sont celles-là, pas que.
Non, j'écoute absolument toutes les radios, vous seriez étonnée, Catherine.
Du matin jusqu'au soir.
Oui, alors il y a eu un moment où j'écoutais beaucoup. J'étais un peu scotchée chez moi, à tourner en rond, donc c'est une activité qui reste une de mes activités préférées. Je suis une vraie amoureuse de la radio, vraiment, et même de l'autre côté, c'est mon média de prédilection. C'était quoi la question, pardon?
La suite de ma question, c'était oui. Justement, vous qui écoutez la radio depuis si longtemps et qui l'avez pratiquée si longtemps, qu'est-ce que vous pensez justement de cette multiplication des scénales où tout le monde échange, donne son avis, où personne n'écoute plus personne? Est-ce que vous avez vu évoluer justement cette radio?
Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a un moment qui a été où les choses ont basculé, c'est quand les antennes, mais alors pour le coup, toutes les antennes et le service public, moins que les autres, ont ouvert, ont donné la parole aux auditeurs. Ça paraît bizarre de dire ça. Mais j'ai trouvé que c'est de la fausse démocratie.
Démagogique. Je ris parce que Pierre Bouteiller m'avait bassiné avec ça en disant « les auditeurs font de la mauvaise radio ».
Non, évidemment, les auditeurs qui me parlent d'eux, de leur vie, de leur situation professionnelle, ça me passionne. Mais les auditeurs qui donnent leur avis sur tout, je pense que c'est de la démagogie et c'est de la fausse démocratie. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu une bascule là. C'est comme quand vous prenez un auditeur au téléphone, vous avez perdu. Vous pouvez pas lui parler normalement, vous êtes obligé de lui dérouler le tapis rouge parce que... Et puis même prononcer le mot auditeur quand on est à la radio, il y a un problème. Ça veut dire qu'on parle pas vraiment aux gens, vous comprenez? Bon, ça c'est mes petites lubies à moi. À part ça, je pense qu'il y a toujours des bonnes choses en radio. Faut juste aller les chercher. Voilà. Sinon, bah pour le reste, je vais me répéter. Hein. Moi, j'ai besoin de son. Le son, c'est la vie.
Alors justement, on entendait dans cette lecture que vous alliez mieux. C'est ce que vous dites. Est-ce que vous avez des projets, Pascal Clark?
Alors, j'ai des projets. Oui et non. C'est-à-dire que écrire ce livre a été très difficile.
J'imagine.
D'abord, c'est difficile d'écrire un livre. C'est difficile de se livrer comme ça. C'était un récit littéraire, donc ça impliquait la sincérité. Sinon, c'était pas la peine. Et je pense que parfois, je ne m'épargne pas, mais faut pouvoir tout dire. J'ai eu la chance d'être épaulée par une éditrice hors pair qui s'appelle Alix Penon, d'Izarn. Qui m'a vraiment tiré par le haut, et toute l'équipe de Flammarion, vraiment, ce sont des gens qui m'ont tiré vers le haut, parce que je pense pas que ce soit, enfin j'en suis même sûre, ce livre n'est pas un règlement de compte.
Pas du tout.
Alors que ça aurait pu, vous voyez, j'aurais pu écrire un roman.
J'allais dire, c'est presque un livre, enfin c'est un livre d'amour.
Oui, c'est un livre d'amour. Mmh. C'est un livre d'amour
pour votre mère et pour la radio.
Pour ma mère, pour la radio, pour Paris. Et je pense que dans l'époque quand même particulièrement boueuse et haineuse que nous traversons, quitte à paraître comme un bisounours, je pense que la réponse c'est l'amour en fait. Voilà. Donc les projets, non là je suis vraiment très contente d'être allée au bout de ce récit. Et maintenant, j'ai une page blanche devant moi qu'il faut que... Vous voyez, j'ai une image de neige, avec les traces quand on skie ou quand on est en surf. Je veux pas brader l'avenir, donc je vais pas me forcer. Je vais continuer à essayer de trouver quelque chose qui me plaise, qui m'aille. Ce sera peut-être pas facile, mais voilà. Et puis tout est imaginable, il y a beaucoup de choses à faire, j'imagine.
Écoutez, c'est ce que je vous souhaite de mieux, Pascal Clark. Mais surtout, ne nous privez pas de votre voix, qu'elle soit sur une page blanche ou au bout d'un micro. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir ici, de vous entendre à nouveau. Et je vous souhaite une bonne page blanche.
Un merci infini de m'avoir invité, c'était pas évident. Et puis de votre émission et de votre exigence et de tout. Voilà, ça va faire...
Allez.
Non, mais je le pense, ouais. Vous savez que je dis des choses que je pense. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer longtemps à nous enchanter. Et je vous embrasse.
Et à bientôt. À bientôt. Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.